Bonsoir, chers auditeurs. Nous nous retrouvons pour cette singulière émission, puisqu'elle a lieu ne serait-ce qu'à 21h30, jusqu'à 23h, ce qui suppose de la part de vous, chers auditeurs, un certain enthousiasme et une certaine patience en même temps. Et nous recevons dans un premier temps, comme chaque mois, le pasteur Blanchard. Cher pasteur, êtes-vous là ?
Oui, cher Hilaire, bonsoir et bonsoir à tous.
Eh bien, bonsoir à vous aussi. Alors, qu'avez-vous
Merci.
À nous dire ? Qu'avez-vous
Alors, écoutez, nous proposons pour ceux qui souffrent notre numéro vert, vous le savez, Espérance au cœur, le 09 72 16 33 10, 09 72 16 33 10, qui, que tu sois, nous comprenons... Pour ceux qui nous écoutent, ils sont en souffrance, leurs problèmes, et nous sommes là pour les aider. Ils pourront exposer leurs problématiques, dire ce qui leur pose problème, et nous ferons ce que nous pourrons pour les aider. Pour cela, il y a un seul numéro, le 09 72 16 33 10. Vous savez aussi que notre déléguée nationale, Béatrice Chaberneau, propose ses services aussi bien pour des formulaires, courriers professionnels ou privés, mais aussi pour des mémoires, et enfin pour les dilettantes d'Internet, eh bien, elle propose ce service pour pouvoir essayer de démêler ces difficultés qu'on rencontre sur le net. Alors pour cela, il y a un numéro de téléphone et il y a un courriel, donc Béatrice Chaberneau, le 06 79 72 88 20, 06 79 72 88 20. Et un courriel, donc Béatrice Chaberneau, un seul mot, avec un D à la fin, @orange.fr. Enfin, je veux vous parler ce soir comme anecdote de quelque chose qui me tient à cœur, puisque ça fait 48 ans, alors je ne sais pas si c'était le 2 juin ou le 3, je ne me remets pas... la date que j'ai débuté comme éducateur à l'Armée du Salut, la Cité de Refuge, dans la rue Cantagrel, à Paris 13e. C'était une autre époque, c'était une époque héroïque. À cette époque, le social était dirigé majoritairement par des gens d'église. Et ces gens d'église ont été chassés, après mai 68, par des professionnels liés à des partis d'extrême-gauche, et toute cette dimension, tout ce pan du sacré qui était le sens profond du social, tout cela est tombé en désuétude, est tombé à l'eau, et on a remplacé ça par des actions uniquement d'ordre social, mais sans connotation
politico-sociale, oui.
Oui, alors moi j'ai débuté à l'Armée du Salut. Vous savez, l'Armée du Salut, c'est une grande... et belle entreprise d'origine anglo-saxonne qui s'occupait de la misère dans les rues de Londres à l'époque du 19e siècle où Londres était plus mal famée que Calcutta. Et après, ils ont voulu faire que ça se concrétise par des actes concrets et ils ont créé des institutions. Et la Cité de Refuge a été créée dans les années 30. Il y a un film, Les musiciens du ciel avec... Michel Morgan, qui se passe à la Cité de Refuge dans les années 30. Et donc, la Cité de Refuge était gérée par des salutistes, des officiers. Ils avaient pris ça, c'était la mode. Ils avaient pris ça sur le mode de l'armée britannique. Et ils avaient donc une hiérarchie, mais c'était une hiérarchie spirituelle.
Oui.
Puisqu'on annonçait l'évangile de Jésus-Christ. Les locaux étaient vétustes, les chambres étaient faites de 50 lits, tête baisse les uns à côté des autres, et nous étions que deux éducateurs à l'époque, parce que ce n'était pas subventionné par l'État, et donc il fallait que ce soit les dons privés qui permettent à l'institution d'exister et de pouvoir continuer son travail.
Oui.
Donc nous avons... travailler dans des conditions qui étaient très, très, très difficiles. Mais nous avions la flamme au cœur et nous avions surtout, surtout l'envie de témoigner de Jésus-Christ, l'envie de dire qu'il était venu pour tous les hommes et que c'était au nom de Jésus-Christ que nous faisions ces actions. Tout cela est tombé à l'eau à partir du moment où toutes ces grandes institutions ont accepté d'être financées par l'État et donc de rentrer dans le moule de la formation qui est celle imposée par les diplômes d'État et donc des écoles d'éducateurs qui, comme on le sait, ne sont pas particulièrement chrétiennes, ni catholiques, ni protestantes, mais qui sont plutôt marquées très très idéologiquement à gauche. Donc cet esprit salutiste, un peu comme les autres institutions d'origine catholique, je l'ai connu et j'ai vécu ça comme quelque chose de fondamental dans ma vie de tous les jours, oui, dans ma vie quotidienne. Et j'avoue que je regrette un peu cette époque héroïque où on était d'astreinte un week-end sur deux, astreinte du vendredi soir au lundi matin, 24 heures sur 24, et quand il y avait des problèmes à un étage, des bagarres, il fallait qu'on gère seul cet immense paquebot qui était la cité de refuge, rue Cantagrel. Alors je voulais parler de cela parce que donc ça fait 48 ans que j'ai débuté dans le social comme professionnel. J'avais déjà travaillé dans le social, mais je n'étais pas salarié. Et j'ai commencé donc ma carrière professionnelle en 1978. Voilà ce que
très
je voulais
bien
donner un peu comme témoignage
bien,
ce soir.
Merci beaucoup.
Et vous dire donc que vous pouvez aussi aller sur le blog Mémoire au cœur, http://mémoireaucœur.overblog.com, ou alors vous pouvez aller visiter mon blog en tapant Pasteur Blanchard, vous tomberez sur ma page Google ou le blog du Pasteur Blanchard. Merci, cher Hilaire,
merci
pour votre fidélité.
Merci, cher.
C'est un beau témoignage que, oui, je veux rendre au Seigneur Jésus-Christ, qui a, merci, permis pendant tant d'années et tant de siècles à la chrétienté de diriger notre pays.
Mais oui. Et ça, malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a tendance à disparaître, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui revient, dont nous parlerons dans notre émission tout à l'heure. À bientôt.
Bonne émission à tous et bonne,
merci,
soirée. Et merci encore.
Merci, cher pasteur. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Est-ce que Pierre Lours est au téléphone?
Absolument, absolument, cher Hilaire. Je
bon,
suis au téléphone.
Cher Pierre, du fond de votre Cantal, vous allez nous délivrer une bonne nouvelle, j'espère. Vous m'avez,
oui,
expliqué
alors, ça,
que vous alliez parler pour que les Français reconquièrent la France.
Oui, par exemple, oui, on pourrait intituler ça comme ça. Effectivement, je vais essayer quand même d'avoir un petit peu de dynamisme et d'espoir. Dans
mais
cette,
oui,
petite,
parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en manque plutôt. Alors certes, il y a l'immigration et tout le monde parle de l'immigration dans nos, on va dire, dans nos milieux, dans nos moyens, dans nos médias à nous, en quelque sorte. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le problème est spirituel d'abord. C'est-à-dire que,
oui,
c'est les Français qui sont malades d'eux-mêmes. Et ils sont malades, je suis un des rares à le dire, et je sais que vous êtes d'accord avec moi, ils sont malades de leur République, qui leur a appris à se détester eux-mêmes. Voilà. Les Français sont fiers de leur République qui apprend fondamentalement à détester la France. De ce point de vue-là, Macron est un élève parfait. Voilà, il déteste la France et les Français. Et évidemment, le problème de l'immigration ne peut pas le résoudre. Alors, je vous laisse la parole, excusez-moi.
Non, non, mais je vous en prie. Mais alors, si vous voulez, je me souviens d'un autre moment où il y avait un malaise très important qui existait en France. C'était juste avant 68. Et d'ailleurs, il y avait une plume du Monde qui s'appelait Monsieur Viançon-Ponté.
Ah, bien, Viançon-Ponté, oui, bien sûr. Que je lisais, que je lisais à l'époque.
Voilà.
J'étais, oui, étudiant. Bah,
et donc il avait écrit un article « Quand la France s'ennuie ».
Oui,
et cette expression « la France s'ennuie » effectivement a été remarqué par la suite en disant il avait compris en quelque sorte le ressort principal de mai 68. Et effectivement, on peut dire qu'en mai 68, il régnait une sorte de lassitude, une lassitude de l'enfant gâté, une lassitude de l'enfant qui avait pendant 30 ans, pendant les 30 glorieuses, été particulièrement favorisé par le sort. Et cette lassitude a donné en quelque sorte une révolution de capricieux, et des capricieux qui ont essayé d'édifier une sorte de société du caprice. Et je pense qu'ils ont réussi. Et maintenant, si vous voulez, en 2026, si on voulait trouver une expression qui rappelle ou qui réponde à l'expression de Villançon-Ponté, la France s'ennuie, on pourrait dire la France se perd.
Oui.
Elle se perd dans le déclin, si vous voulez, dans le déclin omniprésent de la production et surtout, comme vous le dites, de la morale et de la spiritualité. Et on voit bien qu'elle perd. Elle perd dans l'éducation, elle perd dans l'économie, elle perd dans les affaires étrangères, elle perd dans les arts, elle perd sur tous les plans.
Tous les plans.
Alors, pour essayer
et
de
l'histoire qui est faite de la France, c'est comme si elle était écrite par nos ennemis.
Ah oui, bien sûr. Alors là, on adopte totalement les idées des...
C'est la France qui a toujours tort. Depuis 2000 ans, la France a tort à toute occasion.
Oui, il y a une espèce de masochisme tout à fait extraordinaire et qui effectivement est un masochisme qui vraisemblablement a sa source dans tout simplement le régicide qui a été commis en 1789.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Absolument.
Et voilà. En fait, en coupant la tête du roi, la France s'est elle-même coupé sa propre tête et sa spiritualité et sa morale. Alors, comment regagner, comment reconquérir, comment rétablir en quelque sorte une France qui soit aimable, aimable par tout le monde, qui soit respectable, qui soit forte? Eh bien, si vous voulez, ce que je vais vous dire là, ce qu'on va dire tous les deux, c'est à mon sens presque des banalités. Mais en fait, des banalités qui...
ont besoin d'être dites.
qui ne sont pas toujours mises en avant. Et le bon sens, en fait, on sait que le bon sens, bien souvent, n'est pas suivi. Alors, la première chose, si vous voulez, pour essayer de gagner, c'est de vouloir gagner. Et je vous rappellerai le slogan, la devise de Guillaume le Taciturne, cet homme du XVIe siècle.
Il n'est pas nécessaire.
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Oui. Et il avait cette maxime, je maintiendrai. C'était sa devise. Et il a réussi, donc il a été le père, en quelque sorte, de l'indépendance néerlandaise face au Habsbourg d'Espagne. Eh bien, de cette devise, de cette attitude, en fait, il faudrait dire que d'une part, il faut effectivement se maintenir, c'est-à-dire se maintenir soi-même, physiquement, moralement, c'est-à-dire prendre soin de soi, parce qu'on ne peut pas combattre si effectivement on n'est pas dans une bonne forme, si on n'a pas de l'allant physique, de l'allant moral. Ça, c'est la première condition, si vous voulez. C'est déjà se maintenir. Et il faut faire très attention de ne pas se laisser entraîner par la morosité de l'époque, par toutes ces choses épouvantables qui sont dénoncées, qui sont devant nos yeux et qui pourraient nous démoraliser au sens propre du terme. Donc, il faut d'abord se maintenir en forme, en quelque sorte. Deuxièmement, il faut maintenir ses valeurs. Et il faut, pour maintenir ses valeurs, il faut se les définir, il faut savoir quelles sont les bases de notre action. Et ça, c'est une introspection évidemment individuelle, mais aussi collective, sociale. Il faut se regrouper pour définir effectivement les valeurs essentielles. Et enfin, si vous voulez, dans cette attitude volontaire, il faut tout simplement se convaincre, vouloir maintenir son propre pays, ou plus exactement, le redresser. et avoir cette volonté de redresser l'essentiel de ce qu'est ce pays, c'est-à-dire en fait son indépendance. Voilà, donc ça c'est le premier point, si vous voulez, essentiel pour essayer de regagner le territoire perdu, c'est être volontaire et prendre soin de soi, de ses valeurs et de son pays. Et puis surtout, après, comme tout bon combattant, il faut choisir sa stratégie. Alors, si vous voulez, premièrement, essentiellement, c'est savoir quels sont nos objectifs essentiels. Et me semble-t-il, le point où on en est, c'est-à-dire un point où nous n'avons plus aucun levier pour diriger notre pays.
C'est l'ennemi qui tient tout. C'est l'ennemi qui tient tout. Il tient tout.
Et donc, oui.
Sauf,
et donc,
sauf quelques micros, très heureusement. Et merci à Radio Courtoisie.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils sont menacés, ces micros, puisque en fait, il y a une volonté actuellement, justement, d'essayer de fermer cette liberté qui existe à côté dans cette atmosphère totalitaire. Mais bon, je pense pas qu'ils y arriveront. Et s'ils y arrivent, si vous voulez, je pense que ça sera même négatif pour eux, parce que il y a quand même une chose qu'il faut bien savoir, c'est que toutes ces voies libres, ces petites voies libres et fortes qui existent, comme Radio Courtoisie et comme Téléliberté et comme d'autres, sont des voies qui permettent justement de garder un certain moral. C'est vrai, et ce sont en quelque sorte des exutoires. Oui. Et s'il n'existe plus ces exutoires, la pression va encore augmenter. Et la pression augmentant, on peut dire que l'explosion sera peut-être encore plus proche.
Oui, oui.
Vous voyez ?
Oui.
Je pense qu'ils font une erreur totale, ces gens, de vouloir interdire toutes ces petites voies, parce que ça va augmenter la pression. Bon, ça, c'est une hypothèse. Oui. Donc, définir, si vous voulez, l'objectif essentiel, c'est-à-dire retrouver notre liberté, notre indépendance, notre identité, notre souveraineté. Et puis, deuxièmement, savoir s'unir sur l'essentiel avec les autres, parce que si on est dans notre petit coin sans se coordonner avec les autres, ça ne pourra pas avancer. L'armée des combattants ne sera pas assez forte. Et ça, quand on regarde tous les hommes et les femmes qui contestent en quelque sorte cette dictature présente, on voit bien qu'il y a une tendance à l'ego qui peut parfois être nuisible. Et enfin, il faut choisir sa tactique. Et si vous voulez, là au point où on en est, nous sommes dans la peau des résistants. Et les résistants, c'est simple. D'abord, ils choisissent leur ennemi, bien entendu, et une partie de leur ennemi, celui là où ils sont plus faibles. Ils choisissent le lieu où il faut frapper, ils choisissent l'heure où il faut agir, ils choisissent les moyens qu'il faut employer pour ça, et évidemment, ils choisissent le but intermédiaire qu'il faut atteindre. Ce que d'ailleurs, entre nous soit dit, les Gilets jaunes n'ont pas su faire. Notamment en venant manifester à Paris, ils se mettaient dans la gueule du loup. Il fallait qu'ils restent en province, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent sur leur territoire. On ne combat pas, quand on est résistant, on ne combat pas dans le territoire de l'autre où l'autre est fort. Bon, enfin, on pourrait en discuter plus longuement encore des Gilets jaunes. Donc, voilà, si vous voulez, je crois qu'il y a ces trois points qu'il faudrait essayer de mettre en application, entre autres, il y en a certainement d'autres, et pour se donner en quelque sorte une chance de gagner. Ou peut-être, si on perd, si vous voulez, ça nous permettrait de perdre avec une certaine force, avec un certain panache.
Ah, je vois que vous faites de l'esthétisme de la défaite.
Ben oui, parce que si vous voulez, quand on perd avec panache,
oui.
Eh bien, ça permet à ceux qui vont suivre de reprendre le combat un peu plus tard avec force.
Voilà, c'est ce qu'il faut.
Ça ménage l'avenir.
Oui, et c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faudra bien un jour qu'on fasse un bilan de toute cette histoire de France au cours des 200 dernières années. Et ne serait-ce que même les 50 dernières années, c'est plein de leçons. Cette décadence française que tout le monde sent, que tout le monde éprouve, et qui est d'ailleurs pas forcément, inéluctable, parce que la France a des quantités de possibilités. il y a des familles, il y a des gens intelligents, il y a de vrais serviteurs, il y a des gens qui aiment leur pays. On le voit tous les jours, tous les jours. Mais la France n'a pas les institutions qu'il faut pour l'encadrer et lui donner un élan. Et l'essentiel de son activité politique est de se décider tous les 5 ans pour un homme qui est censé la gouverner, l'entraîner. Et cet homme se prend pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une sorte de super chef à la Macron. Et donc, il doit dans son esprit marquer son époque et donc faire le malin d'une manière ou d'une autre en prenant des décisions généralement totalement stupides, ce qui est le cas aujourd'hui.
Oui, et en plus des décisions totalement futiles, parce que je rappelle que 80% des lois ne sont que des petites mesures d'application des directives européennes prises par von der Leyen, qui n'est même pas élue.
Absolument.
Voilà. Donc, à partir de là, si vous voulez, si on ne change pas cette règle, ce fondement, que vous élisiez A, B, C, D, I,
ça ne changera rien.
Ça ne change rien.
Ça ne change rien. Voilà. D'ailleurs, quel est demain l'élu qui aura la possibilité de mettre au pas ne serait-ce que les énarques de Bercy? Personne. Tout le monde le sait, personne. Ils tiennent tout. Ils tiennent la dette, ils tiennent tout. Ils tiennent les finances, qu'ils gèrent très mal d'ailleurs, mais bon, et ils se gardent le pouvoir entre eux. Quel est le ministre de l'Éducation nationale qui arrivera à faire obéir la rue de Grenelle? Mais personne. Bérou s'y est cassé les dents, Robien s'y est cassé les dents. Comment s'appelle-t-il le dernier, là, qui était à peu près correct, s'y est cassé les dents également.
Blanquer.
Personne ne peut rien. La rue de Grenelle est dirigée par des commissions où siègent essentiellement, il faut bien dire les choses comme elles sont, par une franc-maçonnerie totalement active et totalement orientée dans le sens républicain et qui préférera toujours tout ce qui est ennemi de l'Église, tout ce qui est ennemi de Jésus-Christ, de façon systématique, à quelque redressement que ce soit. Voilà. Alors, je voudrais lire vous savez, nous recevons des courriels de nos auditeurs et qui parlent justement de quelque chose là dont vous venez de parler à propos du japonais SoftBank prévoit d'investir 75 milliards d'euros en France. Alors tout le monde s'en réjouit, tous les journaux saluent Macron pour son intelligence. C'est pour construire de gigantesques centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Alors ça a été annoncé avant même le sommet Choose France. Macron s'en est pour lécher les babines. On sait que maintenant que Macron veut faire de la France une terre d'accueil des data systems. Pourquoi ? Car la France possède l'arme nucléaire et la met à disposition du monde entier, dont leurs données seront hébergées chez nous. Donc le plan de Macron met en place un plan pour plus de centrales nucléaires, de l'électricité à bas coût pour ses serveurs uniquement, et puis une très forte armée. Ces projets de data system qui sont énergivores ne sont pas créateurs d'emplois. Bref, c'est les Japonais qui s'installent en France et ce n'est pas la France qui se construit elle-même son propre système de données. Et merci Pierre Lours, merci beaucoup. Et on va tâcher de reprendre courage.
Voilà, exactement.
Un dernier mot.
Écoutez, je conseille quand même à nos auditeurs qui veulent se replonger un peu dans l'histoire de France, notamment depuis la Révolution, d'aller sur YouTube, de taper Henri Guillemin, G-U-I-2-L-E-M-I-N. Et il y a énormément de vidéos qui sont autant de cours d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, peut-être parfois plus, en plusieurs volets, sur tous les grands moments de l'histoire de France, depuis notamment la Révolution française et même avant. Et en plus, c'est fait d'une manière talentueuse, avec beaucoup de vie, beaucoup de perspicacité, beaucoup d'objectivité, ou plus exactement d'honnêteté. Vraiment, Henri Guillemin, cet homme qui avait comme engagement, je dirais, démocrate chrétien, mais vraiment chrétien, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui voulait mettre en application la parole de l'Évangile, en quelque sorte. Hein. Que votre volonté soit faite sur la terre. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire, les démocrates chrétiens de cette époque. Eh bien, vraiment, Henri Guillemin a réussi dans ses émissions à montrer quelles sont les grandes lignes de l'histoire de France, et c'est très formateur pour l'action future.
Merci, Pierre. À bientôt.
Voilà. À bientôt, vos émissions.
Je me tourne maintenant vers quelqu'un qui est présent dans notre studio, qui s'appelle Élie de Trèves, et qui commence à être connu de nos auditeurs, puisqu'il vient régulièrement. Et généralement, c'est pour nous parler de politique extérieure. Donc, après avoir vu avec notre ami Pierre Lours quelles seraient les conditions d'un redressement intérieur, moi, je pense que c'est d'abord et fondamentalement spirituel, et pour ça, il faut que les Français connaissent une sorte d'échec avec leur fausse spiritualité républicaine. Alors, Élie, vous avez réfléchi sur les questions de politique étrangère et vous vous êtes posé la question, peut-il y avoir aujourd'hui une vraie politique étrangère française? Et je pense que vous avez dans l'esprit, vous me l'avez dit vous-même, l'exemple de Saint-Louis, puisque l'autre jour, vous étiez, c'est une occasion d'en parler à nos auditeurs,
parlez-en, il a
à la messe qui était dite à la cathédrale de Versailles.
Jeudi dernier, voilà,
c'était jeudi dernier, en présence du comte de Paris et de son frère, le duc d'Angoulême, le prince Eudes, et tous les deux étant présents, et cette messe était dite, il y avait l'évêque de Versailles, Mgr Crépy, il y avait les prêtres du diocèse, et il y avait beaucoup de monde, la cathédrale était pleine, et nous avons eu droit à de très belles homélies et une très belle cérémonie. Et à la sortie, vous m'avez dit, mais puisque le prédicateur qui était l'évêque a prêché sur Saint-Louis et sur sa politique étrangère, en notant d'ailleurs au passage qu'elle n'était pas forcément en accord avec la politique pontificale et que Saint-Louis l'avait fait remarquer, Saint-Louis, tenant son pouvoir de Dieu, pouvait dire au pape « Moi aussi, je suis de Dieu. » Et donc, sur ce sujet-là, c'est mon affaire et je la traite. Très important, quand on connaît la suite de l'histoire. Et donc, l'exemple de Saint-Louis vous a inspiré. Alors, je vous laisse la parole.
Voilà, donc j'ai d'abord essayé d'expliquer pourquoi ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme l'esprit de Saint-Louis? Et pour une troisième et plus grande partie, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer en fait à quelques dossiers de politique étrangère, hein. Donc d'habitude, c'est vrai que tous les mois, souvent nous avons avec Hilaire et Roch parfois, quand il est présent, un point sur la politique étrangère.
Hein. Toujours.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période d'attente. Finalement, il ne s'est pas passé tant de choses que ça. Depuis un mois, on est dans ce...
On est toujours dans l'expectative.
Avec des reprises de combat. Alors sans doute faut-il être patient parce que après tout les négociations pour le traité de Westphalie par exemple ont duré 4 ans, donc il a fallu 4 ans entre le moment où tous les premiers plénipotentiaires sont arrivés à Münster puis à Osnabrück et le moment où la paix a été signée, et cette fois-ci ça a été une paix relativement durable.
Quoique à cette époque il n'y avait pas d'échéance électorale concernant les principaux intéressés, ce qui peut jouer éventuellement un événement
c'est un accélérateur comme ou est-ce que c'est un facteur de... Mais on parlera un petit peu d'élection. Voilà. Et donc, dans ce match de paix, parce que j'ai pensé, en arrivant du studio, on voyait plein de gens qui sortaient de Roland-Garros. On a d'ailleurs une sorte de double, puisqu'on a d'un côté, on a l'équipe États-Unis-Israël. De l'autre, on a Iran et le Hezbollah. Et chacun fait pression sur l'un ou sur l'autre. Et les intérêts sont toujours un peu divergents. Donc, je me suis dit que c'était pas urgent de... Il était urgent d'attendre, en espérant que peut-être la paix serait faite lors de notre prochaine émission. J'ai rencontré mon banquier qui était très optimiste, mais il est un peu trop rationnel. Et il pense que la paix est bonne pour les affaires. La paix est bonne pour les affaires, mais
j'ai pas pensé
malheureusement, les individus ne jugent pas, ne prennent pas de décision selon leur intérêt, même l'intérêt du public.
On pourrait même vous dire, c'est plutôt la guerre qui est bonne pour les affaires, hein, puisque les vendeurs de morts se sont grandement enrichis sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Si ça se trouve, là, ça sera encore le cas.
Nous investissons dans les armes, ils pensent que c'est un secteur qui a de l'avenir. Voilà.
Alors, Élie, allez-y.
J'avais hésité sur un point sur la politique intérieure, là aussi, parce que je pense qu'il y a un numéro de Politique Magazine, de la Nouvelle Revue Universelle, hein, qui est en préparation sur la discorde civile. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, Hilaire. Hein. Donc peut-être qu'on pourra en parler la prochaine fois. Et je pense qu'il y aura des choses à faire, parce que j'ai l'impression que LFI et Sud sont un peu à l'offensive dans le secteur de l'école, donc je pense que ça sera intéressant. Mais donc, on va rester sur la politique étrangère. Donc, Hilaire a expliqué comment
LFI fait tout.
Ils ont le sentiment d'avoir gagné une manche, ce qui n'est pas totalement faux, avec les élections, et donc ils poursuivent l'offensive.
Il y a longtemps que personnellement, je l'écris dans mes articles de Politique Magazine. On se trompait complètement, et Mélenchon est le pur produit de la République française. Voilà. Et par conséquent, il gagnera sur les petits bourgeois qui se sont fait avoir par lui. Et ils seront capables de voter pour lui pour prétendument éviter un fascisme français qui, évidemment, n'existe pas.
Je vois qu'il se pose un peu des questions, tout de même. Enfin,
ce qui est quand même assez intéressant avec ce personnage.
On en reparlera
la prochaine fois.
Mine de rien, il a beau dire, il n'est pas aussi étranger qu'il le laisse croire, hein, puisqu'on a pu le voir démontrer ces derniers.
Bien sûr, tout ça, c'est de la démagogie. Oui.
Tout à fait.
C'est comme ça que fonctionne la République.
Oui.
Donc, intéressons-nous à la politique étrangère française, placée sous l'esprit de Saint-Louis, puisque d'ailleurs, après la messe et après avoir salué l'évêque et le prince et son frère le prince, nous avons pu vénérer ou admirer, suivant nos opinions, en fait, les reliques de Saint-Louis, hein, qui sont sorties pour l'occasion, puisque, il s'agit donc du... je ne trouve pas de date pour l'historien, du 800e anniversaire de son sacre. Hein. Et donc, il devrait y avoir encore d'autres cérémonies, d'ici la fin de l'année. Alors, ma deuxième partie, quel serait cet esprit de Saint-Louis? Alors, il faudrait tout d'abord éviter de copier, en fait, trop servilement la politique étrangère de Saint-Louis, parce que ce n'est pas forcément la meilleure politique étrangère qui ait été menée par un roi de France. Hein. J'ai un petit préjugé personnel contre le fait, alors c'est la politique intérieure, mais non, d'expulser les Juifs après avoir brûlé la Torah, même après avoir discuté religion pendant un certain temps, mais ce n'est pas forcément l'essentiel. Les croisades de Saint-Louis ont plutôt été des échecs. Hein. Je rappelle que la première fois, il a démarqué à Damiette pour essayer de prendre l'Égypte. Finalement, alors c'est toujours un peu dangereux l'Égypte pour les armées françaises, le roi a été fait prisonnier, hein. La France a dû payer une forte rançon. Le royaume, bien administré par la reine mère, n'a pas bougé. Hein.
Et ensuite, le roi a administré le royaume de Jérusalem lui-même. Et il l'a très bien administré. C'est lui qui a remis de l'ordre là-bas. Oui.
À distance. Hein. Et ensuite, c'était la 7e croisade. Et la 8e croisade, c'est le siège de Tunis, au cours duquel il trouve la mort. Hein. Donc, ce n'est pas forcément... la croisade sur la croisade pas tout à fait réussie n'est pas forcément un modèle de politique étrangère. Mais on peut en retenir certains traits. Le trait qu'on attache généralement à Saint-Louis, c'est son esprit de justice, hein, esprit intérieur, mais aussi esprit extérieur. Hein, et l'histoire n'a pas été fausse, en fait, en retenant essentiellement ce trait. Et donc, nous avons tous en tête, dans le livre d'histoire, cette image que Saint-Louis, d'ailleurs, avant d'être saint, s'est lui-même efforcé de construire, hein, qui était le roi qui rend la justice, parce qu'il avait compris que la force d'administration d'un royaume, elle est aussi dans la spiritualité, elle est aussi dans la justice, et que l'efficacité de l'administration, elle passe aussi par le sentiment de justice qu'ont ces sujets. Alors, je me permettrai au passage, parce que je voulais dans un autre article y faire allusion, mais à rendre un petit hommage à quelqu'un qui va nous manquer, qui est André Santini, qui vient de mourir.
Oui,
hein.
Oui.
Et donc, on citera une de ses phrases, hein, il faut bien rire de temps en temps, qui lui a valu un prix d'humour de l'Assemblée nationale. C'était au moment où Pierre Arpaillan, j'étais garde des Sceaux, il a dit « Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, hein. Pierre Arpaillan, je la rends comme un gland ». Voilà, il avait beaucoup de mots d'esprit assez drôle, on en gardera pour la suite.
Était très drôle, vraiment très, je très, le connaissais très drôle, personnellement un petit peu, il était très... Il avait beaucoup d'esprit.
Il a réussi à gagner, certes au deuxième tour, sa dernière élection sur son lit d'hôpital, qui devait être son lit de mort. La justice à l'intérieur, c'est aussi toute une série de dispositions, la grande ordonnance, la création, l'un des débuts de la création d'ailleurs d'un corps de magistrats qui va être le Parlement de Paris et de la Cour des comptes en parallèle. C'est aussi, alors je l'avais un peu oublié, mais je l'ai revu, c'est aussi l'abolition de l'ordalie, qui peut paraître un moyen, pas forcément le plus efficace, pour manifester la vérité. Non. D'ailleurs, à la suite de Saint-Louis, nous avons totalement aboli l'ordalie. Enfin, peut-être pas tout à fait, parce que la République a rétabli l'élection, qui est une sorte d'ordalie régulière.
Oui,
en fait.
Oui, exactement, voilà, qui permet aux plus malhonnêtes, d'ailleurs, de l'emporter.
Il est tout de même à noter que les élections n'ont jamais été créées par la République. Elles existaient déjà au préalable.
Oui, on le sait, bien sûr.
C'est pas exactement les mêmes. Hein.
Effectivement, elles étaient peut-être
pas dans
plus
le même
justes.
Esprit, mais
elles n'étaient
pas
effectivement.
Exactement, c'était pas le même.
C'était des corporations avant tout. Faut pas
Et donc l'une des mesures aussi qui est imputée à Saint-Louis. C'est l'instauration avant chaque conflit, puisqu'on est justement, il essaye d'interdire, et il va réussir à peu près les guerres internes en fait, entre les seigneurs qui ont encore le goût de la bataille pour régler leurs querelles. Donc il instaure ce qu'on appelle la quarantaine le roi, c'est-à-dire un délai de 40 jours avant d'avoir le droit deux siècles après, avant d'avoir le droit de recourir aux armes, ce qui doit laisser à la fois la possibilité d'une médiation et la possibilité au bailli royal le plus proche d'intervenir pour calmer les esprits. Donc là aussi, il y a un peu une forme de... Parce que si on dit la quarantaine le roi, c'est bien. Si on pense la quarantaine le président, aussitôt, on pense plutôt à 2 ans de à des mois de réclusion chez soi. Donc, voilà. Alors... quel peut être cet esprit de justice à l'étranger ? Donc, Saint-Louis, en fait, a été considéré de son vivant comme le plus juste et le plus grand seigneur d'Europe. Alors, il avait il dirigeait sans doute déjà le royaume le plus puissant d'Europe, puisque les autres États étaient vraiment nettement plus petits, à l'exception du Saint-Empire romain germanique, mais qui ne présentait pas, en fait, de grand caractère d'unité. Donc, il était considéré comme un roi important. Et sa puissance était aussi servie par l'image qu'il avait réussi avec justice à se construire, qui était donc cette image de justice. Et il intervient dans le règlement de plusieurs conflits, notamment la guerre civile anglaise. Donc c'est c'est le dit d'Amiens. Et dans le règlement des affaires assez complexes de Flandre, c'est un autre dit, c'est le dit de Péronne, je crois. Il essaye aussi d'ailleurs de pacifier les choses entre l'empereur et les papes.
Et
donc il a plutôt, à part ses croisades manquées, il a tout de même une réputation en fait de pacificateur dans les relations internationales. Et de tout cela, en fait, peut-être nous pouvons tirer quelque chose. Quelle serait donc cette politique étrangère que nous pourrions mener? Alors, j'avais emprunté un titre à Richard de XVI le mois dernier, qui était l'impuissance moyenne. Hein, et donc, peut-être que je cherchais comment essayer de trouver un nouveau titre plus louangeur, hein, qui serait pourquoi pas parler de puissance mesurée, puisque la France n'est pas une hyperpuissance, mais je trouve qu'à chaque fois, l'expression de puissance moyenne, chagrine un peu mon orgueil national.
Oui,
et peut-être que puissance mesurée, c'est quelque chose de plus positif et qui est plus pertinent, hein, je vais essayer de le montrer, qu'il n'y paraît. Alors, je le rappelle, je l'avais dit un petit peu la dernière fois, qu'il existe des fondements de la puissance, et on ne peut pas nier que la France en est certain. Je rappelle, nous avons la 7e économie mondiale, hein, Nous avons donc des banques, des entreprises, de la technologie, des multinationales, une bourse.
Des territoires ultramarins.
Des territoires ultramarins.
Ce qui compte beaucoup.
La démographie est importante, quoique c'est quelque chose d'un peu fragile. Donc ça, c'est la puissance économique et la puissance démographique. La puissance militaire existe, en fait. Là aussi, elle n'est pas entretenue autant qu'elle devrait être, mais nous avons donc l'arme atomique, et nous avons une tradition militaire, c'est important, des corps d'officiers, des écoles d'officiers, des corps de soldats qui veulent encore, qui ont encore l'habitude de faire la guerre, qui veulent se défendre, et qui deviennent de plus en plus d'ailleurs un corps un peu étrange dans la société, hein, qui s'est modernisé sans eux, heureusement sans doute pour notre défense nationale. Hein. Nous avons des porte-avions, hein, des avions de combat, et l'arme atomique, avec sans doute un problème de soldats, puisque se pose et la question, on ne sait pas comment la résoudre, maintenant que le service militaire n'existe plus, mais après tout, le service militaire n'a pas toujours existé dans l'histoire de France. Il a même, avec son caractère universel et pratiqué par tous, il n'a existé que pendant un petit siècle, en fait. Oui. Hein. Donc on doit pouvoir s'en passer, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à penser, sur lequel... il faudrait réfléchir. Mais on ne va pas parler de culture, puisque c'est la puissance culturelle, on peut penser que nous sommes fiers de nous et nous pensons que nous l'avons. On voit bien que la faiblesse, c'est un problème politique. Politique d'abord, aurait dit quelqu'un qu'on s'est cité à l'antenne. Et qu'est-ce qui est qu'à la France, il faut sans doute, comme dit la chanson, un roi et que sans lui, elle se défait. Et que c'est quoi qu'elle est...
Voilà. Oui,
et que, et que les nouveaux propriétaires ont laissé le domaine plus petit qu'il n'était. Donc, il manque en fait une permanence à la politique étrangère.
C'est ça.
Principe. Il manque un souci de la grandeur et il manque tout simplement un sentiment national. Nous ne l'avons pas.
Oui.
Nous l'avons moins et pourtant. Nous l'avons eu pendant un certain temps, même sous la République, avec des éclipses. Il semble que, alors je sais que Hilaire n'aime pas beaucoup qu'on fasse l'éloge du général de Gaulle, mais sous le général de Gaulle, on avait tout de même quelque chose qui ressemblait à une politique étrangère, hein, une voix entendue dans le monde. Et au-delà des clivages politiques, un certain consensus autour de la fierté nationale, où eh bien, on était des alliés américains, mais on ne se laissait pas marcher sur les pieds, on essayait de faire... de se servir de la puissance d'équilibre de la Russie, et tout le monde, des gaullistes aux communistes, un peu moins les européistes sans doute au centre, s'accordait sur le fait qu'on faisait quelque chose et qu'on pesait, et tout le monde y croyait, les Français y croyaient, et le reste monde y croyait aussi.
Tout à fait, on y croyait, ça tendait à se déglinguer, mais c'est incontestablement Hollande et Macron qui ont vraiment achevé la politique étrangère française.
Je commencerai par Nicolas Sarkozy.
Oui, Nicolas Sarkozy.
Parce que l'entrée dans l'OTAN, il y a un ensemble. Mais voilà. On peut penser qu'effectivement, François Mitterrand, jusqu'à destin différent, François Mitterrand et Jacques Chirac essayent de maintenir la politique gaulliste.
Je suis un peu plus dubitatif à l'égard de Chirac, puisque c'est sous son règne, qui est comme... Désolé d'utiliser ce terme de règne, mais un despote a un règne. Oui. Et c'est sous son règne qu'on a quand même commencé à évoquer l'idée d'une armée européenne
et
de la renforcer.
Bon, non, mais
ça ne s'est pas passé.
C'est lui qui a fait passer le référendum de la Constitution européenne. Mais on peut dire que celui qui vraiment achève tout,
c'est Macron, avec la suppression des corps d'État.
Chacun a ses... suppression. On pourrait parler de la politique de défense des droits des minorités sexuelles avec Hollande, comme
l'Afrique
cheval
traité
de bataille.
De façon tellement outrancière que, évidemment, les chefs d'État se sont tous rebellés. Il est obligé de faire son malin maintenant dans l'Afrique anglaise parce que il ne peut même plus aller dans l'Afrique française.
Oui, c'est ça qui est paradoxal. En fait, il va chercher des alliés au Rwanda, qui est pourtant pas tout à fait
Et là, le Rwanda est en train de demander à Macron de lui rendre le service, évidemment. Donc, ils sont allés se recueillir devant une stèle en prenant parti.
On voit le succès que ça a eu en Algérie. On peut penser que ce sera le même au Rwanda.
Bien sûr.
C'est
grave parce que ça prouve que Macron n'a aucun sens d'abord de ce qu'est un chef de l'État et deuxièmement de ce qu'est la France.
C'était ma conclusion, mais donc.
Alors allez-y, il faut pas que j'en.
Non, mais c'est pas grave. Quels pourraient être les principes de cette politique mesurée? Ce qui est intéressant, c'est même un peu grâce à Donald Trump que soudain on s'est mis. on va dire que l'opinion moyenne ou l'opinion médiatique s'est mis un peu à réfléchir sur le fait que tout de même, peut-être, il fallait avoir une politique étrangère et ne pas être à la remorque des Américains. Et on en avait parlé il y a 6 mois à peu près. Notamment, on a beaucoup reproduit ce discours du Premier ministre canadien, Mark Carney, qui expliquait, alors lui, ce que pouvait être une puissance moyenne, mais laissons le Canada être une puissance moyenne et soyons une puissance mesurée, ce qui est beaucoup mieux. Alors, on peut rappeler que finalement, dans le monde multipolaire qui se dessine, la France a sans doute plus de rôle à jouer, à la fois que dans un monde unipolaire dominé par les États-Unis, mais aussi dans un monde aussi structuré par l'affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis qu'il était sous la guerre froide. Donc aujourd'hui, la 7e puissance économique a un rôle à jouer, d'autant en fait que les acteurs sont inégaux. Une fois qu'on a passé la Chine et les États-Unis et la Chine, finalement, ont des puissances économiques comparables. Donc, à condition, et c'est bien là le problème, à condition d'avoir la volonté d'avoir une politique, nous pourrions en fait avoir une politique et peser parmi les puissances, hein, sans être la seule. Hein. Le point essentiel, c'est donc sans doute la recherche, la volonté et la conscience d'avoir une nation et de vouloir exercer sa souveraineté nationale, puisque je ne pense pas qu'il puisse. Et d'ailleurs, il n'y a pas de politique étrangère européenne. Nous pouvons avoir des alliances avec des puissances voisines qui partagent certaines valeurs et certains intérêts, mais à la fin, chacun a son intérêt. Alors, on le voit en politique économique, l'intérêt de l'Allemagne n'est pas l'intérêt de la France sur la construction automobile, hein, par exemple, ou sur l'industrie nucléaire.
Sur le Mercosur.
Et donc, on peut arriver sur le Mercosur, et donc on peut arriver à des accords, mais encore faut-il avoir clairement établi ses intérêts. Et on ne peut négocier que si on a des intérêts et qu'on fait des compromis avec les autres.
Bien sûr.
Les Allemands ne se privant pas de défendre leurs intérêts, eux, ayant plus discrètement, en fait, parce que depuis la Deuxième Guerre, c'est compliqué, conscience qu'il leur faut défendre leurs intérêts nationaux. Et voilà, on peut rappeler tout de même, c'est assez intéressant, ça fait maintenant une dizaine d'années que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. La catastrophe n'est pas là, ils ont quelques problèmes politiques, mais la catastrophe économique n'est pas là. Et pour aujourd'hui, l'Angleterre est plutôt plus riche que nous ne le sommes, alors qu'il y a 10 ans, c'était plus comparable. Donc,
elle jouit des privilèges de l'indépendance, et elle jouit également des avantages que procure une proximité avec l'Union européenne, parce qu'elle a gardé un certain nombre d'avantages.
Tout à fait. On pourrait même croire qu'on a perdu plus de plumes dans cette histoire ce qui est illogique.
Les pêcheurs français en savent quelque chose.
Tout à fait. On voit des navires énormes avoir des quotas attribués par la France.
Les marchands de saucisses en particulier.
Oui. Mais d'ailleurs, je me faisais la réflexion, mais n'est-ce pas sous Chirac qu'il y a eu la suppression du commissariat au plan, qui était quand même une invention qui était loin d'être si sotte que cela au sortir de la guerre, ça doit être vers 45-46, qui visait justement à avoir une vision plus long-termiste que les gouvernements. Bon, en même temps,
est-ce que c'est fin Chirac ou début Sarkozy?
Je pense que c'est sous Chirac, et ça a dû être entériné sous Sarkozy.
Sous Sarkozy, voilà, oui. Et ça a été repris ensuite par Macron pour placer
peut-être
ses
peut-être les dernières années de Chirac, parce que je me souviens que j'enseignais ça à mes élèves et je leur expliquais que j'avais joué à cache-cache avec la dernière commissaire au plan, hein, qui était une jeune. Donc ils me trouvaient très vieux. Hein. Et donc elle était remplacée par une espèce de délégation la prospective, avant d'être plus ou moins recréée par Bérou. Hein. Et maintenant elle est occupée par
Beaune.
Par Clément Beaune, en fait. Voilà.
On place Bobineau. Monsieur Bobineau va vous interrompre.
On parlera un tout petit peu du Moyen-Orient et d'Afrique ensuite.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, nous reprenons, chers auditeurs, et avant de repasser la parole à Élie de Trèves, comme nous recevons des messages, je tiens à vous en lire un parce qu'il est il est plutôt élogieux. Alors, et en plus de ça, il s'agit d'une dame dont le prénom est Marie-Laure. Bonsoir messieurs, bravo et merci pour cette émission passionnante. Je partage votre diagnostic et les inquiétudes qu'il porte. Comment sortir de ce marasme? Je n'en vois pas aujourd'hui les premiers prémices, ben nous non plus. Et merci d'avoir cité Henri Guillemin, que j'apprécie grandement. La France, depuis le référendum volé de 2005, n'a plus les leviers de son action, à l'intérieur comme à l'extérieur, hélas. Je souhaite rester anonyme. Merci madame, c'est très encourageant. Alors, Élie, ben continuons malgré tout.
Alors, quelle politique d'équilibre au Moyen-Orient? On peut penser que, eh bien, peut-être que dans le conflit du Moyen-Orient, l'esprit de justice, hein, voire un petit peu l'esprit de charité, pourrait tempérer la loi du talion. Puisque certes, sans aller à la célèbre citation qu'a fait d'ailleurs en parlant de Saint-Louis l'évêque,
oui.
si on te frappe la joue droite dans la joue gauche, peut-être on n'est pas... N'est-ce pas un précepte à observer scrupuleusement en matière de politique étrangère,
hein. Ni même dans la
vie politique courante. œil pour œil, dos pour dos n'est pas non plus une façon extrêmement efficace de régler ces problèmes. On voit bien que, voilà, on voit bien que, par exemple, pour ce qui concerne la politique israélienne, à un moment que la réaction à l'attaque de Gaza était nécessaire, mais à un moment, il faut arriver à sortir, en fait.
Bien sûr, et là, je crois que, d'après ce que l'on sait aujourd'hui,
de cet affrontement,
Trump a été obligé de rappeler à l'ordre Netanyahou, parce que lui, évidemment, il est de ceux qui veulent en profiter pour étendre Israël, son influence en Cisjordanie, et puis surtout au Liban.
Au Liban, actuellement, surtout.
Donc, qu'est-ce pourrait être la politique de la France? Ça pourrait être ce qu'elle sait toujours, avec plus ou moins de succès, est forcée de faire. Mais j'aurais attendu ça, ça serait plutôt pour ma conclusion, un peu moins avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a toujours tendance à adopter une position extrême et son contraire c'est plutôt une politique de déséquilibre alterné qu'une politique d'équilibre. Et donc il arrive à se fâcher avec tout le monde.
Et en prenant des positions aberrantes d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et au lieu de suivre une tradition française. La France avait une place incontestablement au Moyen-Orient. Elle était difficile à tenir puisque nous n'avons plus les moyens qu'on avait autrefois. Mais il faut se souvenir qu'on a laissé quand même dans cette affaire des morts, le Drakkar. On ne peut pas se permettre, la France ne peut pas se permettre de baisser le pavillon de cette façon-là, comme elle l'a fait en Afrique.
Donc, pour le...
Oui, continuez, parce que c'est intéressant.
Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut rappeler la nécessité de l'existence. Et pour le coup, aujourd'hui, il s'agit de la rappeler, de l'existence de deux peuples. Hein. Mmh. Je suis beaucoup moins favorable, on avait déjà parlé, à l'existence de deux États, parce que je pense que c'est autre chose.
Par contre,
l'existence de deux peuples capables de vivre... peut-être pas en paix tout de suite, mais en paix progressivement, et après tout, pourquoi pas. Le respect, ça peut paraître un peu désuet dans le monde du XXIe siècle, mais le respect de la propriété privée aussi, et le respect des terres, et le respect des terres ancestrales les uns des autres. Et le respect de la propriété est un moyen d'arriver à la... est un moyen, à mon avis, d'arriver à la paix. Et on pourrait s'appuyer d'ailleurs sur les spécificités françaises, qui sont le statut de Jérusalem et les quatre lieux saints qui appartiennent à la France. Alors je savais qu'ils étaient, mais j'ai été les vérifier. Et donc il y a l'église Sainte-Anne qui est donnée par le sultan en récompense de l'aide que nous avons fournie pendant la guerre de Crimée. Le monastère du Paternoster, qui est la fondation d'une comtesse, sans doute de la Tour d'Auvergne, qui la donne ensuite au gouvernement français, qui est encore celui de Napoléon III. Le tombeau des rois, qui lui est acheté et mis en valeur et exploré par les frères Pereire, les deux célèbres industriels juifs et saint-simoniens, qui le donnent ensuite au gouvernement français, justement, pour... sorte d'alliance en fait entre le souvenir juif et la France, et le troisième c'est le monastère Abogost, qui est donné par le sultan Abdelaziz, je l'ai bien écrit, en 1873, en composition d'un autre bien. Donc il y a en fait des droits symboliques, mais qui peuvent permettre à la France d'être présente. Pourquoi pas essayer de revenir à ce statut de Jérusalem ville internationale, hein, qui a été depuis longtemps oublié, depuis 1967, oui. Mais qui pourrait être... C'est tout petit, Jérusalem, c'est pas grand-chose, en fait, et donc ça ne présente pas forcément un intérêt de défense nationale, mais même pour le gouvernement israélien, mais qui pourrait être un endroit de collaboration, en fait, et d'entente entre, justement, entre des peuples
c'était
et des élites, en fait.
C'était la position du Saint-Siège, hein. Voilà. Traditionnel.
Entre catholiques, entre protestants,
et c'était la
entre
position de la France,
entre orthodoxes, entre français. Oui. Même les Russes sont intéressés à ça, oui, les Américains oui. n'y seraient pas insensibles, donc peut-être que... revenir à une Jérusalem internationalisée avec des puissances protectrices pourrait sans doute être quelque chose dans la tradition française. Rappelons que parmi les intérêts de la France, il y a aussi l'amitié traditionnelle, mais qui est très ancienne, qui remonte sinon à Saint-Louis, hein, au moins aux capitulations de François Ier, donc avec le Liban notamment, hein, et il y a une prison française et on a des populations
Saint-Louis,
franco-libanaises.
Saint-Louis.
Mais c'est assez revivifié par François
Ier. Il y a un acte de Saint-Louis qui reconnaît les Maronites comme des sujets français.
D'ailleurs, qui fait partie des deux peuples au monde qui sont reconnus comme sujets français, avec les Écossais. Hein. Okay. Faut pas l'oublier, ça fait partie des deux plus vieux traités que nous ayons encore en activité, hein, pour ainsi dire.
Et donc là, c'est un peu le sujet de, ça sera un peu le sujet de ce numéro, d'ailleurs, de l'article dans ce numéro sur la discorde civile. Là, le fait d'avoir, de compter parmi les Français... des Français qui ont d'autres attachements à la fois en Israël et au Liban pourraient être, dans une perspective de paix, plutôt un avantage. Parce que, après tout, ensuite, on peut toujours se retrouver pour boire un café à Saint-Germain-des-Prés. Hein. Mais c'est tout de même un facteur d'apaisement. Hein. On va parler de choses qui fâchent, comme l'alcool, le saucisson. Mais il y a plusieurs façons de faire la paix. Donc, il y a sans doute une carte assez originale à jouer. En défendant en fait les intérêts traditionnels français au Proche-Orient sans vouloir prendre parti, mais en rappelant en fait une conciliation possible. Un petit point rapide sur l'Afrique, hein, qui est tout de même. Alors, on peut dire qu'on déjà on était assez en retrait au Proche et au Moyen-Orient depuis assez longtemps, mais en Afrique, on occupait encore jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron une position dominante. Hein, qui apparaît aujourd'hui pas complètement perdu, mais en grande voie. En grande déliquescence. Alors, tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'on était arrivé aussi à un moment où les factions locales, les États locaux veulent affirmer leur existence en se heurtant à l'ancien colonisateur, mais il y a mis beaucoup du sien.
Oui, et je pense qu'il a été... Et on peut parler comme ça du côté, évidemment, des Africains, mais quand même du côté français... Il faudra un jour faire le bilan de ce qu'on a appelé la France-Afrique, qui est un truc qui a été monté par des truands, dont le chef de truands s'appelait Focard, et qui était l'homme de l'Élysée, et qui a duré des années, et sur lesquelles ont vécu les politiciens français. Il faut savoir que c'était des valises de billets qui rentraient avec de fausses, lignes budgétaires dans les pays d'Afrique. Alors moi, j'ai connu ça parce que je l'ai connu personnellement. Par des ambassadeurs français.
Au moins, ça
qui avaient honte de leur métier, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux. Parce qu'on leur faisait signer des trucs dont ils savaient très bien que c'était faux. Et puis, ça se terminait par des valises que Focard ou Pasqua ou les copains de Mitterrand ramenaient. Et ça a servi essentiellement d'alimentation aux partis politiques français.
Tout à fait. Et on se souviendra des fameux, diamants Giscard.
Mais
en réalité, il s'agit plutôt d'un. Mais je veux dire, c'est un exemple parmi d'autres, ce qui démontrait que malheureusement, on n'avait pas une relation saine avec l'Afrique.
Non.
Parce que la politique s'en mêlait et qu'on aurait dû avoir une position
de... Non, pas la politique, les politiciens.
Effectivement, vous avez raison là-dessus,
Il y avait une politique française à faire en Afrique. Qui a été complètement loupé, Et là, je remets en cause les institutions républicaines, parce que les républicains français ne se sont en réalité jamais intéressés. Ils ont fait semblant. Ils ont fait du principe de la colonie un principe de d'avantages personnels.
Tout à fait. C'est, et d'enrichissement tout aussi personnel, pour le coup. Et
alors, je vous laisse la parole, Élie, parce que c'est
non, mais donc là, c'est une question, en fait. Comment penser une politique africaine qui soit à la fois nationale et, il faut le dire, post-coloniale, hein.
Bien sûr.
C'est très difficile à penser. Alors, de toute façon, je
pense
qu'il va exister et continuera à exister des liens spéciaux entre l'Afrique et la France, parce que nous avons une histoire commune, parce qu'aujourd'hui, nous avons, qu'on le veuille ou non, nous avons une population commune, en fait. Hein. Nous avons une langue commune. C'est quelque chose d'assez important. Si on ne traite pas les problèmes de l'Afrique, ils viendront sur nous de toute façon.
De toute façon,
notamment,
ils sont là.
Si la Russie nous a taillé des croupières, et c'était notre endroit, c'est là que nous allons sans doute le plus souffrir, hein, parce que... S'il y a une guerre civile quelque part au Mali, qui a bien commencé d'ailleurs, ben les Russes ont commencé à repartir et passeront à autre chose. Mais les réfugiés maliens, ils arriveront en France.
Hein, bien sûr, mais c'est évident.
Ils sont déjà d'ailleurs, vous n'allez pas en Russie. Hein. Enfin, il y en a quelques-uns, bizarrement. En fait,
mais oui, mais l'histoire est ainsi. Burkina, toujours moins que...
Et Burkinabé, et Nigérien, et... etc. Et ça ne bouge pas, et ça ne change pas.
Donc la France a un vrai intérêt au-delà
de... Les gens qui savent très bien, comme Bernard Lugan.
Il y a une analyse très fine de la situation. Il avait d'ailleurs prévu le renversement au Mali. Je l'avais vu en 2017, j'avais assisté à une très belle conférence, et il nous disait, de toute manière, ce que la France ne prend pas en considération de nos jours, c'est que d'un côté, vous avez les Peuls, et de l'autre, vous avez une autre qui est plutôt sédentaire, qui se situe au sud, pas de peau, le sud, c'est là où il y a le pétrole, et malheureusement, ce qu'on pourrait qualifier de majorité chrétienne, mais non guerrière, et malheureusement, ça devait faire des étincelles, ça en a fait, on se retrouve dehors, et maintenant on a des groupes terroristes qui y sont. Et ça, il l'avait prophétisé il y a presque 10 ans.
Des femmes réduites en esclavage, ce dont la gauche française se moque complètement. La République française s'en moque complètement, bien sûr.
Et puis, il y a l'aspect
économique. Ça ne trouble pas les nuits de Macron ni de Brigitte. Oui.
Et puis, il y a l'aspect économique, puisque si nous ne participons pas à la mise en valeur de l'Afrique, d'autres le font à notre place. Et c'est la Chine à un coût bien supérieur pour les Africains.
Bien sûr.
Et voilà. Donc, il y a plein de choses qu'il faut arriver à penser ensemble, tout en respectant en fait ces nouveaux faits nationaux qui sont en train d'apparaître plus qu'ils ne l'apparaissent, et en essayant de trouver une relation de coopération, comme on dit dans le mot. Et alors, c'est un peu ma conclusion en fait. Là, la maladresse, enfin toute la maladresse de l'impuissance, toutes les faiblesses de la personnalité et du caractère du président Macron se révèlent dans sa politique africaine. En fait, un mélange qui a été vu comme un mépris, assez justement d'ailleurs, à la fois d'ailleurs pour le coup, par le français moyen, comme par l'africain moyen et comme par le dirigeant africain. Hein. Et ce qui est toujours un peu stupéfiant de cette bêtise humaine, on va dire, c'est quelqu'un de brillant par ailleurs, sans doute Emmanuel Macron, mais sur le plan de la... Il lui manque un certain nombre de choses qui pourraient être le sens de l'autre, et sans doute le sens d'une certaine histoire, d'une certaine transcendance, qui l'empêche de comprendre des choses complexes, au-delà de l'intérêt et du jeu politique. On ne le voit jamais aussi bien que dans la politique étrangère, jamais aussi bien que dans sa politique africaine.
Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup. C'était très intéressant, et je pense que ça a beaucoup intéressé nos auditeurs. Et oui, quel dommage. Quel dommage. Ne revenons pas sur ce pauvre Macron.
Hélas, c'est pour ça qu'on va aborder un autre sujet.
Alors,
allons-y,
vous devez traiter de... Et puis à la fin, nous traiterons tous les trois rapidement de l'actualité des derniers jours, là. Le chaos.
Tout à fait, je fais une ouverture dessus à la fin de...
Ah, bon, alors allez-y, à vous la parole,
alors,
Charles.
Comme vous le savez, j'avais pour thème justement d'aborder... ce qui s'est passé vis-à-vis du traitement médiatique national et local du pèlerinage de Chartres ou Notre-Dame de Chrétienté. Cela fait des années que je pratique ce pèlerinage, je pense que certains autour de cette table aussi, et d'autres encore avant, et parmi les auditeurs je l'espère aussi. Et un constat extrêmement triste m'est apparu. Donc il y a exactement 2 semaines, c'était le pèlerinage de Chartres. C'est une première chose. Je n'ai pas pu le faire cette année. J'avais d'autres engagements, c'est ainsi. Mais en écoutant une émission concurrente, je me suis rendu compte que le sujet n'avait pas été traité au niveau des médias nationaux. Et même d'ailleurs, cet élément avait été abordé ici même sur Radio Courtoisie. Je me suis dit, pour que deux radios plus ou moins, disons, nationale, certes, mais indépendante, puisque avec peu de ressources étatiques à leur disposition. Comment se fait-il? Eh bien, tout d'abord, il s'avère que je me suis trompé, et les émissions aussi, parce que j'ai au moins l'exemple de deux médias nationaux qui l'ont traité. Alors, certes, avec du retard. Dans un cas, c'est Le Monde avec un peu plus d'une semaine de retard, et dans l'autre, c'est France Info, avec seulement quelques jours de retard. Voilà. Il s'avère donc que ces deux médias sont extrêmement subventionnés, comme vous le savez, que sans nos impôts, hein, puisque nous payons, je pense, autour de cette table tous des impôts, ces médias ne tourneraient pas. Bon.
Alors, allons, c'est une chose. Allons au fait.
Je vais tout d'abord vous donner les deux titres et on va digresser un peu dessus. Tout d'abord, Le Monde titré le 29 mai 2026 au pèlerinage de Chartres, des jeunes cathos avec tradis entre guillemets, deux fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, entre Fleurs de Lys et Quête de Sens. Bon, vous me direz, le titre comme ça me paraît un peu bizarre. Effectivement, il parle d'un fait.
Bon, que ce n'est pas...
pas négatif.
Mais, justement...
Et ils étaient 20 000, ils auraient pu être 40 000 d'ailleurs, parce qu'il y a des questions de capacité, tout ça.
Tout à fait, et des fermetures.
Et ça ennuie le journal Le Monde, parce que Le Monde, il n'a absolument aucune jeunesse derrière lui. Évidemment.
Non. Et d'ailleurs, je pense que d'ici 30 ans, il disparaîtra.
Il n'a que les membres du Parti Socialiste.
Et encore.
Qui se réunissent maintenant dans une qualité.
Les autres...
Alors, allez-y.
Bref. Le second est donc France Info, qui titrait, entre guillemets, « On a besoin d'autre chose, deux points, la tentation est reine chez les jeunes... pardon, chez les catholiques pratiquants. » Donc là, on se dit, bon, le titre est beaucoup plus engagé politiquement. Et on va se dire, pour moi qui ai beaucoup fait de pèlerinage de Chartres, la question était de savoir pourquoi ont-ils eu cette idée d'évoquer de la politique dans un événement religieux, alors que la loi 1905 a séparé l'Église de l'État? Bon. Eh bien, je vous répondrai que, non content de politiser un événement non politique, ces articles ne sont pas le reflet de la réalité. Et au-delà de cela, je reste atterré par la bassesse de leurs différentes opinions personnelles, c'est une chose, pour des médias qui se veulent être neutres et qui démontrent encore une fois, hélas, leur manque de sérieux dans leurs enquêtes. Alors, manque de sérieux, puisque j'ai appris, grâce à cette magnifique radio que vous devez connaître, une certaine radio courtoisie, voilà, que certains envoyés spéciaux de certains médias, j'en ai déduit, hélas, vu qu'on ne m'a pas donné le nom, que c'était France Info, se sont introduits le soir sur le bivouac pour poser des questions.
Et des questions qui étaient des questions très astucieuses,
très orientées
et très piégées.
Et très piégeuses, surtout.
Et très piégeuses.
Eh bien, j'apporterai tout d'abord quelques éclaircissements, puisque Le Monde, effectivement, s'est trompé, parce que ce n'est pas en 10 ans que le pèlerinage a été multiplié par 10, mais par 2, mais c'est un peu moins que cela. Parce que le premier pèlerinage d'adultes que j'ai fait remonte à 2014, et déjà en 2015, je me souviens particulièrement qu'on nous annonçait 8000 pèlerins. Or, en 2025, dernière édition à laquelle j'ai participé, nous avions quelques 20 000 pèlerins déjà.
Oui.
Voilà, c'est une chose. Donc, petite erreur. Mais c'est pas très grave, nous dirons qu'ils ont été mal renseignés, ça arrive, les médias peuvent se tromper. Ensuite, le point que je voulais aborder serait plutôt l'aspect anticlérical suranné, et d'ailleurs le manque d'ouverture pour des journaux, si ce n'est des torchons. Attention, je n'ai qu'un conseil à vous donner, n'essuyez surtout pas votre vaisselle avec, vous risqueriez de vous empoisonner lors de sa prochaine utilisation. Mais au-delà de ça, pourquoi ces différentes familles de choux, de feuilles de choux, n'ont-elles pas appliqué les mêmes principes qu'ils appliquent à d'autres religions? Je me le demande et je vous interroge en ce sens, en me disant, pourquoi donc n'ont-ils pas utilisé cet esprit si cartésien qu'ils osent mettre en avant, cet esprit des Lumières pour aller au-devant de religions de paix et d'amour qui ont tellement de choses à apporter aux Français, au-delà de leur simple lumière sur le monde. Eh bien, en réalité, comme je vous l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est cet aspect de cet anticléricalisme latent, suranné, qu'il leur reste, puisque c'est facile de taper sur des catholiques, comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt, Élie. Certains évêques se trompent justement sur l'appréciation d'une grande maxime qui est de tendre l'autre joue. Il s'avère que l'Église catholique a toujours eu une interprétation juste, c'est-à-dire qu'on doit tendre la joue, mais ceci ne doit pas amener à l'oppression. Le problème, c'est que ces journaux, ces journalistes, ont une vision où taper sur d'autres est néfaste et risquerait de leur porter préjudice à leur petite vie.
Je vais vous raconter une petite anecdote qui est tout à fait historique. C'était dans les années 50, un petit peu après, vers les années 60, il y avait un dominicain qui portait la contradiction dans un meeting public, à une assemblée essentiellement communiste, gaucharde. Et à un moment, le dominicain prenait incontestablement l'avantage par son raisonnement sur les discours adverses. Et il y a un des orateurs de gauchard qui lui a administré un soufflet. Et en lui disant, en lançant la figure comme une bravade, et ben maintenant, applique le précepte de l'évangile. Tends-moi l'autre joue. Alors, le dominicain tend l'autre joue, l'autre applique un autre soufflet. Et à ce moment-là, le dominicain, qui était baraqué comme pas possible, s'empare du gars, le prend, le soulève et le jette dans l'assemblée. En disant, Jésus n'a pas dit ce qu'il fallait faire après.
Oh, comme c'est beau. Un Don Camillo comme on en rêverait
oui,
plus.
Oui, c'est un bon Don Camillo. C'est une histoire authentique. Hein, une histoire authentique. Je ne me rappelle plus le nom du dominicain. C'était pas Bruck Berger, mais c'était quelqu'un d'équivalent à Bruck Berger. Bon, alors continuez votre affaire, mais ce que je pense que vous appelez l'anticléricalisme, c'est plus grave que ça, c'est de l'anticatholicisme.
Tout à fait.
En fait, dans le monde, il y a un côté... Alors, France Inter, c'est plutôt anticlérical de gauche, hein, mais dans le monde, il y a toute une filiation de catholicisme de gauche qui déteste encore plus les catholiques de droite que de me faire un anticlérical moyen.
Bien sûr. Ils préféreront Staline à Albert Demain ou au Marquis de la Tour du Pin. Oui, tout à fait.
Et donc, pour en revenir à ma... Une petite question m'est venue. Pourquoi n'ont-ils pas interrogé les musulmans sur leur vote lors de leurs différents reportages, notamment pendant l'Aïd, puisque nous avons vu fleurir au sein de ces différents médias, et d'ailleurs beaucoup plus d'articles sur l'Aïd pour une population qui est certes présente en France, que sur le pèlerinage de Chartres. Ça, c'est une excellente question, et je laisse bien évidemment à nos chers auditeurs l'occasion d'y répondre au travers de mails qu'ils peuvent nous transmettre. Enfin, une dernière question m'est venue, puisque dans l'article de France Info, ces derniers n'ont pas trouvé de meilleure idée que d'évoquer un abbé, d'ailleurs en le qualifiant de prêtre et en donnant son nom ensuite. Pour cela, j'ai été d'ailleurs assez surpris, parce qu'ils évoquent d'ailleurs, alors je ne vous donne pas le nom du prêtre, parce que j'ai trouvé ça scandaleux, la façon dont ils l'ont nommé, mais pourquoi avoir qualifié un abbé d'influenceur radical? Pourquoi ne le font-ils pas avec Tariq Ramadan ou d'autres? C'est assez effarant la façon dont on va traiter en France la vision du catholicisme, alors que j'ai eu l'occasion d'y participer, de rencontrer des gens, tout un tas de gens formidables, de rencontrer des jeunes convertis. Je me souviens notamment d'un jeune l'an dernier qui m'a épaté parce qu'il venait d'une famille complètement athée, anticléricale.
Et ça se trouve de plus en plus maintenant.
De plus en plus. C'est à noter. Ce qui me donne
espoir. Je pense
que
ce qui les inquiète, ce qui inquiète ceux qui sont un peu intelligents dans le parti adverse, c'est précisément quelque chose qui est en train d'apparaître, qui n'est pas commandé, qui ne peut pas être commandé. Derrière ce fait, on ne peut pas imaginer des gens qui manipulent, des Bolloré, des je ne sais pas quoi, des gens qui tiendraient des ficelles. Non, non, il y a un mouvement spontané de conversion et qui est considérable, au point même que les évêques en sont eux-mêmes ébahis parce qu'ils n'ont absolument pas prévu ça.
En effet.
Et alors, ça se traduit par des baptêmes.
Alors, oui, que nous avons vu le mois dernier.
À mon avis, ça ne suffit pas. Et personnellement, moi, je rajoute quelque chose à votre discours. C'est que tout ça est très, très bien. C'est très bien qu'il y ait des pèlerinages avec plus de 20 000
personnes. Non, non, mais c'est même très bien et très bon.
Et qu'il y ait beaucoup de prêtres, beaucoup de gens qui soient baptisés.
Mais à côté de ça,
et c'est un point sur lequel, moi, personnellement, vieux monsieur que je suis devenu, j'insisterai, c'est la formation religieuse, la formation théologique, la formation philosophique, et j'ajoute la formation historique et politique. Et c'est ça ce qui fera de cette nouvelle chrétienté une véritable force.
La charnière de la nation, pourrait-on alors, dire.
Concluez votre affaire.
Et donc, j'enfonce une porte à nouveau grande ouverte, mais... comment pourrais-je formuler ça ? S'ils étaient un tant soit peu cartésiens, comme ils l'indiquent si souvent, et ils s'en défendent en disant « Mais non, nous sommes la lumière du monde, nous avons les lumières républicaines » et ainsi de suite. Pourquoi n'appliquent-ils pas cette même méthode aux autres sujets qu'ils étudient ?
Bien sûr.
Parce que...
C'est évident ce que vous dites.
Et étonnamment, ils
sont partisans, c'est tout. Ils sont
effectivement,
partisans.
Et c'est ce qui m'énerve particulièrement, en fait, en lisant ces journaux, c'est de me dire, malheureusement, contrairement à d'autres radios, d'autres télés, jamais ils ne remettront en cause leur point de vue. Ce qui peut nous arriver.
Jamais.
C'est vrai que je suis, étant Lorrain, je suis borné...
Tout ce qui relève de la radio d'État, de la télévision d'État, tout ce qui a été admirablement décortiqué par... Charles Alloncle, qui est d'ailleurs détesté à cause de cela, parce qu'il a mis le doigt sur un système, un vrai système de perversion intellectuelle, de corruption financière, et ça, ça existe, ce sont des faits. Mais évidemment, on peut le dire dès maintenant, cette commission parlementaire n'aboutira à rien, comme les précédentes, comme celles qui ont eu lieu en principe sur les affaires Alstom, etc. Il n'y aura rien comme d'habitude.
Tout à fait.
Parce que,
un pétard mouillé.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais cette radio d'État est entièrement entre les mains d'une bande de gens qui sont tous de très bonne origine, il ne faut pas croire. Hein,
non, c'est d'ailleurs
quand
assez
quand on s'en prend à l'immigration, c'est très bien de s'en prendre à l'immigration. Les gars qui viennent tatouer, qui viennent bousculer, et tout ça, c'est, évidemment, c'est de la... c'est des gens qui faudrait complètement reprendre en main. Mais qu'est-ce qui est responsable dans notre pays ? C'est ceux qui tiennent l'opinion, et c'est ceux qui tiennent des décisions politiques et sociales.
Tout à fait.
Et c'est ceux-là qui sont... Et pour le moment, c'est quoi ? Ce sont des Français, et ce sont des Français généralement d'origine catholique, et pour la plupart d'entre eux qui sont sortis des bons collèges. Hollande, il sort de très bons collèges. Ségolène Royal, elle sort d'une famille royaliste.
Et tout à fait. Et d'ailleurs, sa famille l'a reniée.
Mais bien sûr,
pour
famille...
connaître certains de ses cousins, c'est assez amusant.
Bien sûr, parce qu'elle est connue pour ce qu'elle est.
Oui.
Là-bas,
oui.
Dans leur famille, ils savent très bien ce qu'elle est. Mais tous ces gens-là, et Macron, c'est du même type. Mm-hmm. Tous ces gens-là sont des profiteurs du système, d'un système républicain dans lequel ils se sont installés. Et le grand malheur, c'est que l'Église les bénit, parce que l'Église a béni la République. Elle a dit aux catholiques français de rallier la République. Ce qui est la plus grande erreur de toute l'histoire de l'Église.
Voilà. Tout à fait. Et l'excommunication d'un certain mouvement politique,
l'Action française. On en reparlera une prochaine fois. J'ai fait un article là-dessus.
Et j'en profite pour ouvrir sur un nouveau sujet.
Alors allez-y. Parce qu'on n'a plus que quelques minutes.
S'ils sont capables de traiter du sujet des cathotrades avec ce prisme, pourquoi ne traitent-ils pas, à ce moment-là, le sujet de nos chers jeunes délinquants qui ont fait tout un boxon d'ailleurs. On l'a vu dans le 16e.
Comment dites-vous ?
Un boxon. Un bazar, si
après,
vous préférez.
Après cette émission, vous m'expliquerez.
eux qui ont fait tout un bazar, pas possible, tout un ramdam, si vous préférez, en fêtant la victoire du PSG. On les a vus, pas très loin de chez moi, au Trocadéro, en train de faire les oseaux à brûler des voitures. Encore une fois, c'est les Français qui vont payer. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les policiers. Rendez-vous compte, depuis lundi, ces mêmes zozos qui ont fait tout et n'importe quoi sont relâchés parce que, bien évidemment, on ne va pas les mettre en tôle. Ils vont recevoir une convocation au tribunal à laquelle ils n'iront pas. Et pourquoi ne pas aussi, s'être rendu aussi sur place et les interroger sur leur vote? Je pense qu'on aurait été très surpris. À tout hasard, j'imagine que leurs opinions politiques sont assez neutres, si ce n'est peut-être de gauche, voire même pour un certain personnage qui se revendique marocain alors qu'il ne l'est pas, et qui s'invente toute une histoire et tout un mensonge autour de lui, comme Staline s'est créé une nouvelle virginité une fois qu'il a fait tomber les différentes commissions qui étaient présentes avant lui. Je suis désolé, mais on devrait traiter ces jeunes de la même manière qu'ils traitent les catholiques tradis, comme ils disent, et on verrait, je pense, beaucoup de Français être beaucoup plus fermes à leurs endroits et demander justement des sanctions plus lourdes. Je ne vais pas réclamer jusqu'à, disons, la roue, mais au moins quelque chose qui puisse les enfermer dans une sanction réelle.
Oui, merci, cher ami. Oui, bah bien sûr. Il est évident que là, on est tombé dans l'aberration la plus totale. Mais la bourgeoisie française, elle n'a dans le fond que ce qu'elle mérite, si j'ose dire. À force d'avoir été toujours dans le sens d'institutions républicaines totalement pourries, sous prétexte de garder leur portefeuille, de garder leurs avantages sociaux, et ben finalement, on a le résultat. Et on le savait, moi ça fait 50 ans qu'on sait quel sera le résultat de ces politiques insensées, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan de la politique extérieure, comme on en a parlé. On n'a absolument pas résolu le problème post-colonial, comme on dit, on n'a absolument pas résolu. Donc ça se termine comment? Ça se termine par des invasions migratoires. Mais le problème, c'est pas ceux qui envahissent, c'est pas eux qui sont coupables.
Le problème, c'est les politiques qui laissent faire.
Bien sûr, c'est
plutôt qu'ils l'encouragent d'ailleurs.
C'est quoi? C'est les 4000 personnes qui tiennent le pays, qui s'appellent la France et qui se téléphonent entre eux, qui se connaissent et qui touchent 30 000 euros par mois. Voilà, c'est ceux-là qui sont responsables. Et tout le reste, c'est du baratin. Et si on réglait ce problème fondamental des institutions, de façon à non seulement retrouver une politique étrangère, mais retrouver une politique intérieure et surtout une politique judiciaire. On n'en a plus.
Oui,
tout sert de prétexte, puisque comme il n'y a plus de place dans les prisons, donc on ne peut pas mettre de peines de prison. Quand il y a des peines de prison, on les aménage parce qu'on ne peut pas mettre les gens en prison. Que la vie en prison est devenue quelque chose d'insupportable, et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que la République maltraite tout le monde, y compris sauf les caïds, qui, eux, ont leur téléphone, leurs relations et qui se font envoyer de la drogue par des drones. Et là, paraît-il, on n'y peut rien. Bon, c'est inimaginable que l'on laisse faire, on ose nous expliquer. Moi, je n'ose pas donner les noms, mais enfin, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice, mais ils se moquent du monde. En réalité, ou bien ils n'ont pas les pouvoirs, et concrètement, ils ne les ont plus. Alors, il faudrait qu'ils reconnaissent.
En fait, il y a deux choses qu'il faut noter. Tout d'abord, il y a un principe qu'on pourrait réutiliser en France, qui est plutôt bien, qui s'appelle l'empirisme organisateur, tout de même, et s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense à un certain Javier Milei,
ou d'autres qui
vont mettre en place des prisons extrêmement dures. Certes, ce n'est pas très amical de finir plus ou moins nu dans une prison avec l'interdiction de parler, d'avoir une seule heure de récré par jour, mais je peux vous assurer qu'à ce rythme-là, vous avez 10 ans, vous apprenez vite à rester droit. Et si jamais vous recommencez, vous reprenez triple tarif. Je pense que ça remettrait un peu les choses au clair. Enfin, il y a un deuxième aspect qui pourrait être intéressant. C'est à nouveau de rendre responsable le JLD, donc le juge de la liberté et de la détention. Pourquoi? Comment se fait-il qu'un type qui ait commis trois viols, dont deux après avoir été déjà remis en liberté, puisse se retrouver à nouveau en liberté?
Oui, bien sûr.
Comment se fait-il qu'on ne puisse pas avoir ce qu'on appelle
On aimerait que le gars aille exercer ses talents sur le dit juge, pour qu'il comprenne. Mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est même qu'on aimerait que M. Macron et Mme Macron connaissent les avantages et les privilèges qu'ont les Français qui se trouvent dans les tours et dans les... Voilà. Et qu'ils connaissent ces avantages jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour qu'ils comprennent. Mais non, ces gens-là, ils s'en foutent, ils ont les motards, ils ont les... Alors, il nous reste 2 minutes. Cher ami, je me tourne vers Élie.
Ben non, je proposais de donner 2 conseils de lecture de 2 articles récents que j'ai lus dans le Figaro et dans le Figaro Vox, qui sont tout à fait intéressants pour notre réflexion. Le dernier qui était aujourd'hui, c'est un article de Wally Bordas qui oui. porte justement sur la façon dont LFI a conquis les cités. Oui. Et donc, c'est un long article assez intelligent sur la façon dont ils ont construit un militantisme efficace et construit un mécanisme d'identification à leurs élus, puisque les électeurs noirs préfèrent voter pour des élus noirs.
Bien sûr.
Ils le disent qu'à moitié, mais si on leur pose la question, ils le disent. Hein.
C'est ce qui va se passer de plus en plus. Ce ne sera pas simplement le
4-5-2. Il y a une semaine, donc Figaro Vox, de Alain Marleix et Thomas Erhardt, qui insistaient sur le fait que le découpage démographique des circonscriptions avantage de fait les banlieues à forte présence immigrée, puisqu'on ne compte pas les Français, on ne compte pas les électeurs, on compte les habitants. Et donc, mécaniquement, en fait...
Et on les compte en gros.
On les compte en gros.
Parce que personne ne peut aller les compter.
Ne critiquez pas l'obésité dans le milieu populaire. agrémenté par le poulet à la... Enfin, bon, ça... Donc, mécaniquement, en fait, la Seine-Saint-Denis est surreprésentée par rapport à la Corrèze, en fait, pour prendre un exemple traditionnel.
Un petit mot.
Gardez espoir. Merci. Et comme la dernière fois, je vous dirai que je vous réserve un chiot de ma chienne pour les futures politiques et les prochaines élections qui risquent d'être fort amusantes, je pense.
Merci et je remercie infiniment nos auditeurs. J'espère que nous les avons intéressés par cette critique un peu vive de l'actualité, mais avec des réflexions de fond et qui portent sur toute l'histoire. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut réapprendre aux Français à aimer leur histoire de France, parce que c'est la plus belle qui soit, malgré toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir et quelquefois les horreurs. Il n'empêche que c'est la plus belle histoire du monde et que c'est une erreur totale d'avoir rompu avec cette histoire en ralliant systématiquement une république amnésique, théorique et qui n'avantage jamais que les Hollande et les Royales et les Macron. Merci, chers auditeurs. Bonsoir.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Réaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 2 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.